Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Voilà, bien je commence par simplement ceci. Jérémie, c'est un prophète qui est très particulier parce qu'il a vécu, ou il a fait l'expérience de vivre sous cinq règnes de rois. C'est-à-dire il y a eu cinq rois pendant toute son existence. Et il a vu le pire, et il a vu un peu celui qu'on pourrait appeler le meilleur. Et Jérémie, donc, est celui qui est appelé par Dieu. Et c'est assez particulier parce que vous aussi, vous pouvez vous poser la question, Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as appelé et certains disent, moi je dirais, c'est pas qu'ils disent, mais certains pensent qu'ils sont appelés et en fait, vous n'êtes pas appelé du tout. Vous allez le comprendre tout de suite. Et je souhaite que vous soyez appelés tous, par contre. Ça peut paraître pas contradictoire. Mais au travers de Jérémie, on comprend ce que c'est que l'appel. Vous voyez ? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont appelés. Et en fait, eh bien, on le voit des signes précis qui sont vraiment appelés. Et ça ne trompe pas, vous voyez ? C'est ça que le livre de Jérémie est très vrai dans ce qui nous dit, et parfois on est un peu bousculé, même gêné dans ce qu'il dit. C'est pas possible qu'il dise une chose pareille. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi? Alors, la première chose, c'est que le ministère de Jérémie commence dans un temps qui est bon. Dans un temps qui est bon, parce que c'est avec le roi Josias. Et le roi Josias, c'est un roi réformateur. C'est-à-dire que aujourd'hui on pourrait dire, c'est un roi qui veut le réveil. Il veut le réveil. Et il y a eu un réveil. Du temps de ce roi, il y a eu un réveil qui s'est manifesté comme cela. C'est qu'on faisait des travaux au temple, et puis on a découvert le livre du Deutéronome. Alors on vient dire au roi, bien on a découvert ce livre. Et alors, quand le roi lit ce livre, il est touché, il est bouleversé, il pleure, et il dit, il faut se repentir, mais qu'est-ce que nous avons fait, etc. Et alors, à partir de ce moment-là, bien se répand dans le pays une sorte de réveil, de réforme, de retour à Dieu. Et alors, on délaisse les idoles et lui-même, eh bien, met de l'ordre dans la maison de Dieu. Mais déjà, dès son jeune âge, il était prêt pour cela. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Il était appelé, c'est le cas de le dire, appelé pour cela. Et Jérémie connaît cela. Mais cette réforme qu'on appelle cette réforme de Josias, moi j'appellerais ce réveil de Josias, et par la découverte du Deutéronome, le retour à la Bible, ce réveil n'a été qu'un réveil très superficiel. Il n'a pas été dans les cœurs, profondément. Et quand c'est pas profond, eh bien, ça, on s'en rend compte, parce que chasser le naturel, comme dit le Boileau, bien, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Et alors, ce réveil n'est pas profond. Et tout de suite, eh bien, quand Josias va mourir d'une manière accidentelle, je parle et je résume parce que je vois l'air qui tourne, et vous pourrez lire cela dans le livre des Chroniques, comme aussi dans le livre des Rois. Eh bien, quand le roi qui lui succède, eh bien, va prendre la place, eh bien, tout ça va être balayé. Et Josias se remet en question. Alors Dieu lui dit simplement ceci, eh bien, parce que tu t'es remis en question, les jugements que j'avais pour Israël, pour Juda, bon, tu ne les connaîtras pas. Ce ne sera pas pendant ton règne que cela va se produire. Ce sera après. Mais tu mourras dans la paix et tu auras de belles funérailles. Voilà. En guise de funérailles, il y a là quelque chose qui étonne. Parce que on est dans une situation comme aujourd'hui, vous voyez... ça m'amuse quand j'entends des chrétiens dire on ne fait pas de politique, l'Église ne fait pas de politique. Elle a le tort, vous savez, c'est le tort. Vous voyez, pas de faire de politique. Quand vous priez, vous ne faites pas de la politique, vous faites la politique de Dieu. Et puis le livre, l'Ancien Testament est plein, je dirais, de politique. Et je dirais, quand vous êtes contre le péché, ben vous êtes aussi, vous prenez position, vous faites la politique de Dieu. Hein. Quand on est dans cet ensemble, je dirais, cette confrontation dans laquelle eh bien Josias se trouve, il y a d'un côté Babylone, la puissance montante, et puis de l'autre côté vous avez l'Assyrie, la puissance qui est en train de décliner, et puis de l'autre côté vous avez l'Assyrie, l'Égypte. Qui est en train de dire, ah, non, moi je suis pas d'accord, c'est pas Babylone, c'est nous les Égyptiens, nous sommes les meilleurs. Et alors, la Syrie va s'écrouler, et qui va prendre la place? Est-ce que c'est Babylone? Est-ce que c'est l'Égypte? Et le pauvre petit Josias, eh ben là, il est comme un petit pays pris entre les deux grands. Et le roi d'Égypte lui dit, je passe dans ton pays, ce sera la fameuse vallée de Megiddo, hein, et je passe, je fais que passer, je ne t'en veux pas. Mon problème, c'est Babylone. Et c'est à Babylone que je vais faire la guerre. Alors laisse-moi passer. Et puis, que se passe-t-il? Josias se mêle de cette histoire et il combat, il veut arrêter le roi d'Égypte. Il s'appelle Nécho. Pas confondre avec un autre Nécho, mais il s'appelle Nécho. Et alors là, dans la bataille, il se déguise comme Akab, et une flèche vole, une flèche, comme on dit, perdue, l'atteint et le tue. Et moi, j'ai lu ça souvent, et c'est la première observation que je voudrais faire avec vous, vous voyez. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. C'est la leçon que j'en tire, voyez. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Il y avait une affaire, c'était Babylone et l'Égypte. Eh bien, ils se combattent, ne te mêle pas de ce combat. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat, voyez. Alors, mais combien aussi il y a des chrétiens qui se mêlent des affaires des autres. Attention aux flèches qui volent, aux flèches perdues. Voyez. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Voyez. Moi, j'ai appris que bien souvent dans des histoires comme ça, dans des problèmes d'église ou même à l'intérieur de l'église, bien on se mêle de choses. Je vois des gens qui se mêlent de choses de d'autres églises. Eh bien, attention aux flèches qui perdent, aux balles perdues. Nous n'avons pas à nous mêler de cela. Et le Nécho, c'est dans le livre des rois, il est dit, dans le livre des chroniques, il mourut parce qu'il n'avait pas écouté Dieu. Et pourtant, c'est un homme sage, c'est un homme qui aime Dieu, qui est celui que Dieu appelle à faire une réforme, voyez, dans son pays. Et puis, c'est parce qu'il a tout simplement voulu se mêler de quelque chose. Peut-être a-t-il cru qu'il allait avoir un grand destin national, ou international plutôt, ou dans la région. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas, et surtout n'a jamais appelé Israël à avoir un grand destin international, mais simplement à être celui, le pays missionnaire. Voilà. Et c'est cela que Israël aurait dû être, c'est un pays missionnaire, faire connaître au monde entier le Dieu d'Israël, que c'était le seul Dieu, et l'unique Dieu qui n'avait pas d'autre. Voilà, alors je l'ai dit au passage. Alors Jérémie se trouve là dans cette situation. Et il est appelé, dans cette circonstance, du temps de ce roi. Alors, Je lis chapitre 1er du livre de Jérémie. L'Éternel lui a parlé, verset 2, la 13e année du roi du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne, alors tous les rois viennent, et sous le règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. C'est-à-dire, il a vu tout, il a vu tout. Il a vu le commencement, c'est-à-dire une réforme avortée, et il a vu la déportation. C'est la catastrophe comme on l'a jamais vue. Et il est celui que Dieu appelle. Alors chapitre toujours 1er, verset 4, « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi, et avant ta naissance, je t'avais consacré, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Et je répondis, « Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. » Mais l'Éternel me répondit, « Ne dis pas, je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, tu leur diras ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. » L'Éternel le déclare. Alors, c'est pas quelqu'un qui a choisi d'être prophète. Il y a des gens qui choisissent d'être prophète. Oui, choisi. On verra vite si tu es vraiment appelé ou pas. Et tous les ministères, c'est comme ça. Et l'exemple de Jérémie est là clair pour nous. Pourquoi? Parce que il n'a pas voulu être prophète. Il n'a pas voulu. Il n'a pas cherché. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Et il y a quelque chose dans cet appel, c'est qu'il est prophète pour les nations. Il va prophétiser sur toutes les nations. Si vous lisez la fin du livre de Jérémie, je suis étonné, il y a même des prophéties sur Babylone, sur Amon, mais toutes ne sont pas encore réalisées. Alors si vous piochez là-dedans, vous dites peut-être qu'on est dans ce temps-là, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont se réaliser prochainement. Voyez, là, dans cette situation dans laquelle nous sommes, avec l'Irak, on ne sait pas. Moi, je vous dis franchement, mais je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi prier et pour qui prier? Pour qui et pourquoi prier? Et moi, je vous avoue, ma perplexité est la plus grande, parce que on ne sait pas, vous voyez, on ne sait pas. Et c'est pour ça que le chrétien doit être très prudent dans ce domaine. Moi, je vous dis, faites vraiment attention. Je priais, puis je voyais un oiseau, ça semblait être une colombe, la paix. Mais en y regardant de plus près, le Seigneur me dit, non, c'est un pigeon. Un pigeon, c'est pas une colombe. Et j'ai l'impression que il y en a beaucoup qui vont se faire pigeonner. Et qu'on va se faire pigeonner. Vous savez, je vous le dis comme ça, sans trop de précision, vous voyez, mais dans ce problème, nous avons une chance. Et c'est notre bonheur, pour ceux qui sont charismatiques, c'est que nous pouvons prier en langue. C'est-à-dire que nous pouvons prier selon la volonté de Dieu sans la comprendre. Et je crois que là, on peut dire aujourd'hui, heureux charismatique, parce que tu peux prier sans te tromper. Le Saint-Esprit, eh bien, met des paroles dans ta bouche. Et puis, le Seigneur connaît. Mais c'est vrai que nous sommes dans une situation très difficile, très délicate. Et alors, c'est là que on rejoint un peu ce qui se passe pour Jérémie. Jérémie, eh bien, qui est là, et... Dieu lui dit, voilà, ils m'ont abandonné. Et le message que Jérémie a apporté, c'est quelque chose qui va se retrouver dans le même message de Paul. Vous voyez, Paul a des similitudes avec Jérémie. Parce que si Jérémie est le prophète pour les nations, l'apôtre Paul est l'apôtre pour les nations. Et on voit des parallèles très nets, vous voyez. Il y a même dans Jérémie, quelque chose qui est aussi à prendre en compte, c'est il va annoncer la destruction du temple. Ah, quel blasphème pour les Juifs. C'était impensable. Quoi ? Annoncer la destruction du temple. Mais Jésus aussi l'a annoncé. Et c'est pour ça que si vous annoncez la destruction du temple, vous aurez toujours beaucoup de difficultés. Jésus et Jérémie, sur ce plan-là, ont connu, je dirais, un destin identique. On pense que Jérémie a été scié. Vous voyez, la tradition dit qu'il a été emmené en Égypte, et puis ceux qui se sont révoltés contre ce qu'il disait et les paroles de Dieu, eh bien, l'ont scié. Voilà. Ça, c'était la fin de Jérémie. Et Jésus, lui, il a été crucifié sur la croix. Et vous savez pourquoi il a été ? Parce qu'il a dit, qu'il détruirait le temple. Ouais. C'est ce motif qui a fait que Jésus a été crucifié, vous voyez ? Et qu'il a été mis à mort. Et il n'est pas bon de dire les choses de Dieu, mais c'était impensable pour eux. Comment Dieu avait construit, suscité ce temple, Salomon l'avait construit. C'est pas possible que Dieu puisse dire, il sera détruit. C'est pas possible. Mais imaginez un peu, et là il faut qu'on se mette un peu dans cette position du prophète qui prêche sur les nations, mais qui prêche aussi sur son propre temple. Sur sa propre nation, sur Juda, et qu'il avertit que Dieu est en train de changer la donne, qu'il a vu, eh bien, que les tables de la loi ne pouvaient pas être reçues. Pourquoi ? Parce que Israël avait écrit déjà les tablettes, sur ces tablettes, ou plutôt le peuple d'Israël avait traduit, écrit sur les tablettes de son cœur le péché. Alors on va lire ça dans chapitre 17 de Jérémie. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur, avec la pointe de diamant et sur les cornes au coin de leurs autels. Autant que de leurs fils, ils s'occupent de leurs autels et de leurs pieux sacrés voués à Asherah, près de chaque arbre vert, sur les hautes collines et les montagnes dans la campagne. Voici, je livrerai au pillage vos biens, tous vos trésors, ainsi que vos hauts lieux, à cause des péchés que vous avez commis dans tout votre pays. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'il n'y avait pas seulement l'idolâtrie partout, mais elle avait même pris place dans le temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, l'idolâtrie avait sa place. Et c'est pour ça que Dieu décide de détruire le temple. Mais ce que nous notons ici, le péché de Juda est écrit, gravé sur la tablette de leur cœur. D'ailleurs, c'est là qu'on voit combien le cœur de l'homme est méchant. Et il dira ailleurs, eh bien, qui peut le connaître ? Qui peut connaître le cœur de l'homme ? Verset 9 du même chapitre. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi. L'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. C'est-à-dire, qui peut connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme ? C'est l'apôtre Paul qui dit, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais le mal que je voudrais éviter, ben je le fais. Et c'est pour ça que les deux, que ce soit Jérémie ou que ce soit Paul, eh bien, ce sont ceux qui disent le mieux, eh bien, ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Mais aussi, Jérémie annonce que si les tablettes du cœur de l'homme, le péché est écrit avec un burin de fer, mais même mieux, avec le diamant, vous voyez, tellement c'était c'est écrit, c'est comme, évidemment, c'est la pierre la plus dure. Eh bien, Dieu est celui qui a déjà préparé quelque chose d'autre. Et il prépare, parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais, et qu'il n'est même pas capable de revenir à Dieu, eh bien, il prépare le moment où c'est lui qui va le rappeler. Et c'est lui qui va écrire sur les cœurs, mais par son esprit, les paroles de la loi. La loi était extérieure, et là, elle va devenir intérieure. Et là, on trouve ces paroles si belles qui se trouvent dans le chapitre 31. Voilà. C'est incroyable parce que Jérémie voit la destruction du temple. Il voit tout détruit. Il voit le peuple déporté. Et on pourrait dire, mais tu es vraiment défaitiste. Et il dit, je vois quelque chose de plus. Et je vois, alors il parle d'un rêve que Dieu lui a donné. C'est au chapitre 31. J'aimerais que vous le lisiez en entier, verset 26, et il dit, « Puis je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, mon sommeil m'avait été agréable. Or le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda, d'hommes et d'animaux. Et comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner, pour les renverser, pour les ruiner, pour les détruire et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter, l'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents abîmées. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare, mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun son compagnon, son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Vous voyez, Dieu annonce ce qu'il va faire avec Jésus. Et Jérémie le voit. Il le voit déjà. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que il voit la destruction. Et c'est pour ça que c'est pas très juste quand on dit, oh, voilà encore un Jérémie, prophète de malheur, vous voyez, prophète de malheur. Mais non, Jérémie n'est pas un prophète de malheur. Il annonce vraiment la sanction du péché et du peuple, mais il annonce déjà le Christ qui vient. Il annonce déjà, vous voyez, le temple va être détruit. Il est encore debout, il va être détruit. Il dit, le temple va être détruit. Eh bien, il annonce déjà, eh bien, qu'Israël va revenir et que le temple va être reconstruit. Et, Jésus aussi, eh bien, ce temple va être détruit et je le rebâtirai. Et j'inscrirai les paroles bien dans votre cœur. Ce qu'il y avait du temps de Jérémie, ce qui était inscrit dans les cœurs, c'était le péché. C'était le péché. Et le péché tellement fort qu'ils ne peuvent même pas s'en débarrasser. Et Dieu annonce un temps où, justement, eh bien, il changera ces choses. C'est-à-dire, c'est une nouvelle alliance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une rupture. Une alliance L'ancienne alliance est en train de se casser et une nouvelle alliance est en train de se produire. Et Jésus est celui, eh bien, qui est cette nouvelle alliance, voyez, pour nous. Il est celui qui a accompli ce que Jérémie avait annoncé. Mais il y a plus. Jérémie est celui qui dit au peuple quelque chose qui surprend. Parce que il va être traité de défaitiste, de saper le moral des troupes. Il va être presque traité de traître, parce qu'il est celui qui dit « Soumettez-vous au roi de Babylone. Soumettez-vous au roi de Babylone. Si vous vous soumettez au roi de Babylone, vous, votre vie sera épargnée. » Moi, j'ai réfléchi à cette question. Je me dis, mais pourquoi Dieu dit, eh bien, soumettez-vous au roi de Babylone et vous serez épargnés. Vous ne connaîtrez pas la destruction. Le temple restera debout. Et on sait que ce message n'est pas entendu. Et Jérémie sait tout ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je parlerai un peu de ce caractère de Jérémie dans quelques instants, mais il annonce des choses qui vont se produire. Et il dit au peuple, et le roi Ézéchias le prendra à part, Zédécias le prendra à part, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il lui dit simplement ceci, on va lire, c'est à la fin, il lui dit, rends-toi au roi de Babylone. Et tu seras épargné, ta famille sera épargnée, vous serez tous épargnés. Et Sédécias ne veut pas parce qu'il a peur. Alors je lis, c'est dans chapitre 38. Chapitre 38, voilà la première déclaration. Voici se déclare l'Éternel des armées. Verset 2. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Il aura au moins gagné cela. Voici ce que déclare l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui s'en emparera. Et Sédécias, le roi, le fait venir. Et au verset 17, je passe parce qu'il y a bien d'autres choses, on jette... Jérémie, à cause de ses propos, dans une fosse, dans une citerne, il enfonce qu'un Éthiopien, un fonctionnaire du roi, qui s'appelle Ebed-Melech, eh bien, va voir le roi, il dit, c'est pas juste. Et alors, le roi est d'accord, il dit, bon, alors va le chercher, fais-le ressortir, etc. Et je laisse de côté, eh bien, la tension, la douceur avec laquelle, eh bien, Ebed-Melech traite et retire Jérémie de la fosse en mettant même sous ses bras des vieux chiffons déchirés, usés, parce que certainement il ne devait pas être très, très gras, il devait être maigre et d'être resté dans cette situation. Et puis, alors le roi Sédécias vient le chercher, ou le fait chercher, et puis il lui dit... Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et alors verset 17. Alors Jérémie dit à Sédécias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille. Et cette ville ne sera pas incendiée. Mais si tu ne te rends pas aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens qui mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. Et c'était simple. Sauvez-toi au roi de Babylone. Sauvez-toi. Mais moi, je suis juif. Moi, je suis juif. Moi, je suis le roi. J'écoute, mais il y a tous ceux qui sont autour de moi. Ils disent, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Et il dit à Jérémie, verset 19, « J'ai peur des Juifs qui sont déjà passés aux Chaldéens. Je crains de leur être livrés et d'être outragés par eux. » Et Jérémie insiste, on ne te livrera pas à eux. Écoute donc l'Éternel selon ce que je t'ai dit, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans le palais royal de Juda vont être emmenées aux officiers du roi de Babylone. Et elles diront, ils t'ont tendu un piège, tes bons amis te voilà pris. Et pendant que tes pieds enfoncent dans la boue, eux se sont éclipsés, etc. Et Sédécias aurait pu empêcher un massacre. Mais la peur, la crainte vont l'empêcher de se rendre au roi de Babylone. Et moi j'ai beaucoup réfléchi à cela et j'ai prié. Mais Seigneur, pourquoi? Bien sûr, Dieu aurait pu les délivrer avant. Mais la réponse de Dieu est simple. Je vous ai donné du temps pour vous soumettre à ma parole et à ma volonté. Et vous ne l'avez pas fait. C'était le premier réveil. C'était le réveil de Josias. Et maintenant, je veux voir si vous vous soumettez à moi en vous voyant vous soumettre au roi de Babylone. Et des fois, on n'a pas tellement le choix. Et le choix, c'est de se soumettre à celui qui est notre ennemi pour prouver à Dieu qu'on a compris et qu'on se soumet à lui-même. Et c'est une leçon difficile. Et je ne sais pas si dans les temps actuels, eh bien, il ne faudra pas aussi se soumettre à un roi étranger. Mais il est encore temps de se soumettre au roi des rois, au seigneur des seigneurs et au prince de la paix. Et il vaut mieux se soumettre au seigneur des seigneurs et au roi des rois, au prince de la paix, que de devoir un jour nous soumettre de force à un roi qui détruira tout. Alors je vous le livre comme ça. Parce que des fois, bien, on ne veut pas obéir à Dieu. On ne veut pas se soumettre à Dieu. Et Dieu dit, bien, je verrai si vraiment ton cœur a changé lorsque tu accepteras aussi la situation dans laquelle, eh bien, je t'oblige maintenant à te soumettre. Oui. Alors, donne à réfléchir sur cela parce que, au fond, il y a des choses qu'on peut éviter. À un moment donné, bien Dieu dit, d'accord, si tu veux encore éviter le pire, ben soumets-toi à celui à qui tu n'as pas voulu te soumettre. Tu n'as pas voulu m'écouter quand je te disais, reviens à moi. Eh bien maintenant, au moins, écoute-moi quand je te dis, soumets-toi à cette autre autorité. Et dans cette soumission à cette autre autorité que je suscite, je verrai l'état de ton cœur. Ce message est difficile, ce message est incompréhensible, et les Juifs ne pouvaient pas le comprendre. Si bien que Jérémie, mais je comprends sa situation, Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? Chapitre 15, lisons. Mais Jérémie est excédé, Jérémie en a assez. Il est triste, il est malheureux et il en arrive à dire, c'est la complainte de Jérémie, chapitre 15, verset 10, « Malheur à moi! Pourquoi ma mère m'as-tu donc mis au monde? Tout le pays s'en prend à moi et me cherche querelle. Je n'ai rien emprunté, je n'ai rien prêté. Pourtant tous me maudissent. » L'Éternel répondit, « Moi. » Je le jure, je te délivrerai au temps de ton malheur, au temps de ta détresse, ce sont tes ennemis qui viendront t'implorer. Mais, et c'est le cri du cœur, Jérémie n'en peut plus. Et il va même plus loin, chapitre 20, il va dire quelque chose qui nous est impensable, il va même maudire le jour de sa naissance. Et il va dire ceci, maudit soit à jamais, verset 14 du chapitre 20. le jour où je suis né, que ce jour où ma mère m'a fait naître en ce monde ne soit jamais béni. Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père en disant « Il t'est né un garçon » et qui a causé une très grande joie. Qu'il devienne semblable aux villes que l'Éternel a renversées sans regretter sa décision. Que dès le point du jour, il entende des cris, des clameurs à l'heure du midi. Car il ne m'a pas fait mourir dans le sein de ma mère. Que ceux qui seraient devenus ma tombe, de sorte qu'à jamais, elle m'aurait gardé en elle. Et la souffrance de Jérémie. Et maudit le jour. Quand certains se sont insurgés en disant, comment est-ce qu'on peut maudire le jour de sa naissance? Ce n'est pas tellement le jour de sa naissance qui maudit. Réfléchissez bien. Vous n'avez pas entendu au début? Vous vous souvenez pas ce qui a été dit au début? Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète pour les nations. Ce n'est pas la naissance. Ce n'est pas la naissance qui est en cause. C'est l'appel, la vocation. J'aurais été mieux si j'avais jamais eu de vocation. Le problème, c'est la vocation. Ce n'est pas sa naissance. Parce que sa naissance, elle est le fait du projet de Dieu, du dessein de Dieu pour Israël, pour Judas. Je t'ai appelé dès avant ta naissance. Et pour Paul, c'est la même chose. Relisez ses lettres, mais des fois, il en est excédé, il en a marre. Et quand je dis marre, c'est encore, ça ne décrit pas toute la profondeur de tout ce qui peut se passer dans le cœur, vous voyez. Et quand il dit maudit à jamais le jour où je suis né, je veux dire, oh, j'aurais préféré ne pas naître, parce que je suis né et avant même que je sache quoi que ce soit, c'était pour un but. C'était pour ce but-là. Pour vivre cette vie, moi qui n'ai fait de mal à personne, eh bien tous m'en veulent et tous me persécutent, tous me chassent, tous me critiquent. Et c'est pour ça qu'il dit aussi au verset 7 du même chapitre, « Tu m'as séduit, Éternel, je me suis laissé séduire. Tu t'es servi de la force avec moi et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis un objet de risée. Tous se moquent de moi. Chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation à longueur de journée. » Ta parole éternelle m'attire des outrages, des insultes. Et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. Ça, c'est la marque du ministère et de l'appel. Pourquoi ? Parce que celui qui est chrétien est seulement appelé pour être sauvé. Mais celui qui a reçu un appel ne pourra jamais démissionner. C'est impossible. Il n'y a pas de démission possible. Et c'est là que je vois vraiment l'empreinte du vrai ministère. C'est quelles que soient les difficultés, les problèmes, eh bien, tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire, je ne démissionnerai jamais. Je ne peux pas. Alors quand je vois des gens, je démissionne, tu termes. Je me dis, certainement, que tu n'as pas été appelé dès le sein de ta mère. Tu t'es peut-être appelé, et tu as été certainement appelé pour être sauvé, pour... Mais tu n'as peut-être certainement pas été appelé pour le ministère. Parce que le ministère, c'est là que Jérémie l'explique bien, c'est quels que soient les obstacles, les difficultés, eh bien, je voudrais oublier sa parole. Je ne parlerai plus en son nom. Mais, dans mon cœur, il y a un feu qui brûle et qui m'embrase. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. Et on comprend l'apôtre Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » C'est pas possible. Il est appelé pour cela. Et quand bien même le monde entier s'élèverait, lutterait contre lui, il dit « Je suis appelé, je ne peux pas faire autre chose. C'est plus fort que moi. » C'est la vocation, et bien que le Seigneur m'a adressé. Je termine parce que nous arrivons à l'heure fatidique et il nous faut nous quitter, mais simplement de rappeler un autre point. Je l'ai déjà un peu souligné, évoqué, et c'est aussi pour nous faire comprendre la situation de ces hommes et de ces femmes de Juda. Jérémie leur parlait, leur disait, le temple va être détruit. Mais il ne disait pas, le temple va être détruit, point à la ligne. Il a dit, le temple va être détruit. Et il parlait déjà d'un autre temple qui allait être reconstruit. Et lui-même donne le signe de sa certitude dans les paroles de Dieu, c'est qu'il achète un champ alors que, à ce moment-là, les champs ne valaient plus rien du tout. Et pourquoi il achète un champ? Pour dire, parce que vous reviendrez. Nous reviendrons après la déportation. Après l'exil, nous reviendrons. Il y a encore un temps. Et Dieu n'oublie pas. Et Dieu est fidèle. Le vieux temple doit être détruit. Et un autre temple doit être reconstruit. Et Jésus dit la même chose. Le vieux temple va être détruit. Et un autre temple sera construit. Et je suis ce temple. Et je crois que c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister là, ce matin, c'est parfois, nous aussi, nous sommes attachés à de vieux temples, à de vieilles pratiques, à de vieilles habitudes, et le cœur n'y est plus. La consécration n'y est plus. Et on s'attache au vieux temple, parce que ce temple de Jérusalem, mais il a été le témoin bien de Salomon qui a prié, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées dans ce temple, et Dieu était présent là. La gloire de Dieu a rempli le temple, et puis les lévites, les sacrificateurs, les prêtres ont été obligés de sortir, etc. On a tous ces souvenirs, on a tout ce que Dieu a fait, tout ça à l'esprit. Et maintenant que Dieu dit, ce temple est détruit. Et il sera détruit. Et j'en fais un autre. Et du reste, il a été reconstruit. Il a été embelli ensuite par Hérode. Mais ensuite, il a été vraiment démoli. Et Jésus est le nouveau temple. Mais il y a aussi derrière cela, c'est que nous, des fois, nous nous attachons à notre vieux temple, à un passé. Et Dieu nous demande de faire confiance, non pas à l'avenir, mais à sa parole. De mettre notre foi dans ses paroles, dans ses promesses. Et moi, je me souviens quand j'étais à l'UNRE et que il fallait partir de l'INRE et que j'hésitais parce que je disais, mais il y a un temple, il y a ceci, mais Seigneur, mais tu n'as pas laissé ça. Il y a tellement de choses qui se sont passées ici, des gens qui ont été délivrés, des gens qui se sont convertis, des gens qui ont reçu un ministère, tout ça, mais tu ne peux pas le laisser, ce n'est pas possible. Et où aller? Et Dieu m'a rassuré, m'a dit, je te donnerai un temple où tu mettras celui dedans. Et je me souviendrai toujours, c'est comme si on mettait dans une petite boîte de chaussures, une petite boîte d'allumettes. C'est exactement la même chose, voyez. Et bien sûr, ça fait toujours mal au cœur parce qu'on est attaché aux choses passées, même glorieuses du Seigneur. Et Jérémie nous parle dans cette mesure aussi à nous aujourd'hui. Vous êtes aussi attachés aux choses du passé, aux choses qui ont réussi, qui ont marché, où j'étais avec vous et tout ça. Et des fois, Dieu va les détruire. et Dieu va les détruire. Peut-être que dans ce bras de fer auquel on assiste, je vous dis franchement, peine à voir clair là dans tout ça, et il faut être prudent dans tout ce que l'on entend. Dieu, ce qui compte, c'est de savoir que Dieu fait quelque chose de neuf. Il fait toujours du neuf. Il y a quelque chose qui est en train de se casser, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire. Et je l'ai vu combien de fois. Et le livre de Jérémie me le rappelle, le souligne. Et je pense par exemple au cep de vigne. Il a produit tous les cèpes, tous les sarments, ont produit du fruit. Et puis, après, eh bien, vient le moment où il faut couper les sarments qui ont pourtant produit du fruit. On dit, mais c'est pas possible, on ne va pas couper. Moi, quand je voyais, je vois encore sur une route, dans le midi, je me suis arrêté. Il y avait un vigneron là qui était en train de couper la vigne, de tailler la vigne. J'ai dit, mais vous n'avez quand même pas coupé tout ça. Mais si, monsieur. Regardez tout ce que j'ai déjà coupé. Et puis alors, je voyais tout ce qu'il avait déjà coupé. Mais qu'est-ce qui va rester? Rien. Mais c'est ça qui est important. Si on ne le coupe pas, ben, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de récolte. C'est le cep, la parabole du cep. Les sarments, bien sûr, on voit les sarments comme quelque chose de négatif, mais non, les sarments ne sont pas négatifs, ils ont porté des fruits. Il faut les couper, il faut en laisser un, pour qu'ils reportent du fruit. Mais même les sarments, même coupés, ils ne sont pas perdus. Pour celui qui sait les couper, c'est les nouveaux pieds des vignes. C'est les nouveaux pieds et les nouveaux ceps à venir. On les coupe et on les plante. Je ne sais plus comment je cherche le nom. Ils ne sont pas perdus. Et parfois, eh bien, au travers de ça, on voit que il y a une difficulté pour nous de couper et de nous élancer dans quelque chose de neuf. Et de dire, mais ce qui est ancien, eh bien, c'est pas tout à fait perdu. On peut en faire des autres pieds de vigne. Je voudrais que ce matin, bien, nous prions, vous voyez, ça va mal. L'Église est en pleine difficulté dans le monde entier. Mais on sent qu'il y a aussi une pression. Si on sent une pression au niveau politique, militaire, tout, mais il y a aussi une pression au niveau spirituel. Que Dieu nous conduise dans la prière, vous voyez. Nous ne sommes pas appelés à faire la politique du monde, mais la politique du royaume. Et de dire, mais quelle est la place? Quelle est la place? Quelle est ma place? Quelle est la place de l'Église? Comment prier? Qui prier? Pourquoi prier? Quoi prier? Méditons tout cela. Hein? Il y avait un réveil. Mais il a avorté. 2. Jérémie a un message difficile. S'il ne tenait qu'à lui, il dit, je préfère ne pas être né. Mais c'est pour ça qu'il est né. C'est pour ça que Dieu l'a appelé. Et pour toi, c'est peut-être pareil. Je dis, mais c'est peut-être aussi un message difficile. Mais si tu crois qu'en démissionnant, eh bien, tu rends service ou tu te rends service, simplement, tu prouves que tu n'as pas vraiment été appelé par Dieu. Et ce n'est pas un jugement que je porte. Les difficultés arrivent, c'est pour que, eh bien, Dieu manifeste sa présence. Troisièmement, eh bien, voyons ce parallèle aussi avec le temple ancien et ce que Dieu est en train de construire. Ce n'est pas du rafistolage, c'est du neuf. Quatrième point, c'est accepter d'être émondé, d'être taillé. Ne pas nous accrocher même à ce qui a été béni par Dieu. Et je vous demande vraiment de réfléchir là-dessus. Ne vous accrochez pas au passé, même des choses que Dieu a bénies, mais regardez comme Jérémie. Il voit la destruction du temple, il voit déjà l'autre temple derrière, et il voit déjà la nouvelle Jérusalem. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est la vraie vision. Pas seulement voir ce que Dieu fait quand il détruit et qu'il nous fait entrer dans quelque chose de nouveau, mais déjà de voir les choses nouvelles et de travailler en conséquence. Et enfin, je le rappelle aussi, ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas, comme a commis l'erreur qu'a commise Josias. Ne nous mêlons pas et demandons à Dieu de nous donner la sagesse. Est-ce qu'il faut que je me mêle de ça? Il y a des conflits dans lesquels il est bon, aussi bien sur le plan international, mais peut-être aussi sur le plan personnel, de relations, d'église, etc. Faites attention que cette histoire, eh bien, nous parle. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous parle au travers de tout cela ce matin. Et je voudrais m'arrêter là et maintenant, eh bien, vous inviter à prier avec moi. Et laisser la parole de Dieu produire son fruit, son œuvre en nous. Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jésus est mort et sa vie, sa mort sur la croix, a porté la vie dans le monde et a manifesté la vie de Dieu dans nos cœurs. Et ce matin, eh bien, regardons, considérons toutes ces choses et moi, Seigneur, je leur ai donné ces indications que tu m'as confiées. Je sais pertinemment que tout n'est pas pour chacun. Peut-être que l'un d'entre vous dira merci, Seigneur, pour la parole que tu m'as dit ce matin, c'est de ne pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Pour un autre, ce sera, oui, c'est vrai, Seigneur, que je suis attaché aux traditions et aux choses anciennes où tu nous as bénis et où tu m'as béni. C'est peut-être ça, le message pour toi. Pour un autre, c'est, j'ai envie de tout plaquer, de tout démissionner, de partir et tout. Et le Seigneur te dit, souviens-toi de Jérémie. Pour un autre, c'est de dire, mais c'est plus fort que moi. Ah, je ne pourrai jamais me taire parce que cet amour que tu as mis dans mon cœur pour mon prochain et me dévore. Je suis comme toi, Jérémie. Tu aimais ces hommes, ces femmes de Juda. Tu savais la perdition dans laquelle ils s'engageaient. Tu connaissais la destruction, la déportation, la catastrophe qui s'annonçait. Et tu voulais les prévenir, et même le roi Sélécias. Et puis, tu as dit, obéis à Dieu. Obéis à Dieu, soumets-toi. Fais ce que Dieu te demande. Soumets-toi au roi de Babylone, et tu t'en trouveras bien. Et toi, tu as de l'amour dans le cœur. Tu dis, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas se soumettre à Dieu? Pourquoi? Et tu pleures. Oui, j'ai oublié de le dire, mais Jérémie pleure. C'est dans le chapitre 8. C'est terrible. Il s'identifie au peuple et il pleure. C'est comme s'il était là et dit, peuple, tu ne te rends pas compte de la situation dans laquelle tu te trouves. Et il pleure pour lui. Il est effondré pour ce peuple. Et il dit, si mes yeux étaient des citernes, que je puisse pleurer. Si mes yeux étaient des fontaines. Ouais. Parfois, il y a, pour certains d'entre vous, cette parole, oui. J'ai de l'amour dans mon cœur et je pleure pour ceux qui n'acceptent pas.